Good morning, LifePoint Brussels, and good morning to anyone who is watching from all around the world.
Bonjour, LifePoint Brussels, et bienvenue à notre service en ligne.
My name is Ray Levy, and I'm the worship pastor here at LifePoint Brussels.
Je m'appelle Ray Levy, et je suis le pasteur de louange à LifePoint Brussels.
And this is my wife, Catherine, and she is the music director.
Et voici ma femme, Catherine.
We're so thankful that you have decided to join us here and worship this morning.
Nous sommes tellement reconnaissants que vous avez décidé d'être avec nous pour notre service ce matin.
If you are a guest that's joining us today, and maybe your church isn't gathering right now,
peut-être vous êtes un invité avec nous aujourd'hui parce que votre église ne se rassemble pas à ce moment.
Or maybe a friend shared this link with you.
Ou peut-être un ami a partagé ce lien avec vous.
Or maybe you're looking for a church home.
Ou peut-être vous cherchez une église.
We're so thankful that you are here with us today.
Nous sommes tellement reconnaissantes que vous soyez ici avec nous.
You know, the pandemic has kept us apart.
Vous savez que la pandémie nous a séparés.
But it can't stop us from being together.
Mais elle ne peut pas nous empêcher d'être ensemble.
Look, we're learning how to leverage technology to experience gospel-centered togetherness with you.
Nous apprenons à utiliser la technologie pour que notre église soit fort et ensemble.
So for the next hour, what we're going to ask you is not watch with us, but to worship with us.
Alors pendant notre service, nous allons vous demander d'adorer avec nous et pas juste nous regarder.
To stand with us, to pray with us, and to read with us.
De chanter avec nous, de prier avec nous et de lire avec nous.
Right now, there are pastors who are online.
En ce moment, il y a des pasteurs qui sont en ligne.
Who are ready to engage with your prayer requests.
Qui sont prêts à répondre à vos demandes de prière.
So we'd ask you to say something to them online.
Nous vous demandons donc de leur dire quelque chose en ligne dès maintenant.
Let them know that you're here because they are responding.
Parlez avec eux et ils vont répondre.
Also, we'd invite you to post a picture of your worship gathering.
Nous vous invitons à publier une photo de votre réunion d'adoration.
That would be such an encouragement to others who are involved in your worship today.
Ce serait un encouragement pour les autres personnes qui participent également à notre service aujourd'hui.
And look, as your pastors, it would encourage us so much to be able to see you worshiping today as well.
De plus, en tant que pasteur, cela nous encourageait également à voir ce que vous faites pendant cette période et comment vous vous engagez avec nous.
Finally, we thank you so much for your giving and generosity.
Enfin, nous tenons à vous remercier fortement pour votre générosité.
Your tithes and offerings, your generosity are so important during these times for ministry to go on.
Vos dîmes et offrandes, votre générosité sont si importants à ce temps pour que le ministère continue.
Look, you can give online.
Vous pouvez donner en ligne.
You can find out some more information about that on our website.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur la façon de le faire sur notre site web.
So, thank you.
Alors, merci beaucoup.
Make sure you worship with us through your giving today.
Assurez-vous d'adorer avec nous aujourd'hui grâce à vos dons.
So, let's pray together and continue in worship.
Alors, on va prier ensemble.
Father, we honor you and thank you so much for the privilege to be your children.
Seigneur, nous vous honorons et vous remercions beaucoup pour le privilège d'être vos enfants.
We thank you that even though we are not physically gathered in one spot,
nous vous remercions que même si nous ne sommes pas physiquement réunis à un seul endroit,
our hearts are united today in worship.
Nos cœurs sont unis aujourd'hui dans l'adoration et louange.
We pray that today that all that we say, all that we do as we worship in our homes.
Nous prions pour que aujourd'hui, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, pendant que nous adorons dans nos maisons.
Wherever we are right now.
Où que nous soyons en ce moment.
As we're worshiping with you, that this is a pleasing aroma to you.
Pendant que nous vous adorons, que c'est un arôme agréable pour vous.
We ask all of this to you.
Nous vous demandons tout cela.
In the name of Jesus we pray.
Au nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Let's continue to worship.
C'est parti.
1, 2, 3, 4.
We will. Bonjour à tous LifePoint et bienvenue à notre troisième vidéo en live. J'aimerais vraiment remercier toute l'équipe qui a eu autour de cette production, tous les efforts fournis, le travail difficile qui a été amené pour pouvoir vous permettre de louer le Seigneur et de recevoir sa parole en live le dimanche. Et j'ai vraiment été encouragé la semaine dernière de voir des gens se connecter, des personnes que je n'avais plus vues depuis un certain temps. Mais j'espère que lorsque nous reviendrons ensemble à LifePoint, louer physiquement le Seigneur, que vous serez là et que je pourrai vous donner une embrassade ou vous serrer la main. Et si ce matin vous nous rejoignez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes dans une série qui est appelée 7. Pourquoi 7? Parce que nous examinons les 7 lettres aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Et si vous n'avez pas eu l'opportunité de voir les messages précédents, je vous invite à retourner sur notre site ou à nous écrire afin de pouvoir voir ces vidéos et prendre connaissance des différentes étapes des lettres. Mais rappelez-vous, l'église d'Éphèse, la première semaine, c'était l'église qui avait perdu son premier amour. Smyrne, l'église qui sera persécutée. Pergame, celle qui a besoin de se repentir. Thyatire, celle qui a parmi elle une fausse prophétesse. Ensuite Sardes, qu'on a vu la semaine passée, l'église zombie, parce que dehors elle paraissait vivante, mais Jésus-Christ lui dit que tu étais morte de l'intérieur. Et cette semaine nous atterrissons à Philadelphie, l'église qui persévère. Et la semaine prochaine, nous clôturerons notre série avec l'église de Laodicée, l'église tiède. Mais quand vous examinez tout cela, ce n'est pas un peu interpellant? On se rend compte qu'il y a seulement 2 églises sur 7 qui ne sont pas mortes. Smyrne et Philadelphie. Et mes amis, le passage aujourd'hui est plus long que celui-là de la semaine passée, mais je vous propose d'utiliser le même modus operandi. C'est-à-dire qu'en fait, on va lire le passage ensemble. D'ailleurs, vous verrez normalement le passage qui est repris dans les commentaires du live si jamais vous n'avez pas de Bible près de vous. Ensuite, je vais vous expliquer un peu le contexte de l'église de Philadelphie. Et ensuite, section par section, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Mais avant tout cela, prions. Notre Père, toi qui es au milieu de nous, toi qui gères toute cette crise, Seigneur. Seigneur, que tu sois loué. Que tu sois glorifié ce matin à travers la louange, à travers la prédication de ta parole, Seigneur. Seigneur, que ce soit ton nom qui soit glorifié, que ce soit pour ta gloire et pour notre bien, Seigneur. Seigneur, prépare notre cœur à entendre ce message. Seigneur, que ton esprit éveille en nous une passion et une soif d'apprendre plus de toi, Seigneur. Et nous te demandons ces choses en ton nom. Amen. Voilà, donc je vous invite à prendre votre Bible, votre application à Apocalypse 3, à partir du verset 7, jusque 13. Voilà, donc l'Écriture nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage et on n'aura pas le temps, bien sûr, aujourd'hui de voir tout. Et je vous invite vraiment à reprendre tout au long de la semaine ce passage et à le méditer, à le prier ensemble chez vous, avec votre famille ou via vidéoconférence avec des amis. Mais commençons par un petit peu de contexte. Et j'ai vraiment l'opportunité de suivre des cours à l'Institut biblique de Bruxelles où on apprend vraiment sur le contexte. Et là-bas, les professeurs mettent vraiment l'accent là-dessus. Ils disent le contexte, le contexte, le contexte. Et au début, moi, j'étais là, je me disais, ouais, le contexte, le contexte, le contexte. Je me suis rendu compte que cela m'a permis de pouvoir comprendre à qui est écrite la lettre, à quel peuple, pour quelles raisons, pourquoi utilise-t-on un vocabulaire et pas un autre. Et je vous invite vraiment à utiliser ce schéma-là pour pouvoir méditer la parole, essayer de comprendre ce que le Seigneur a vraiment à nous dire ce matin. Mais revenons-en à Philadelphie. Philadelphie, en fait, veut dire « amour fraternel ». Et cela a été inspiré, en fait, des deux frères qui l'ont fondé, Attalus et Euménès. Attalus, en fait, avait été pressé par Rome pour se retourner contre son frère, mais il a refusé et il a préféré être loyal envers son frère. C'est pour ça qu'on parle de Philadelphie, l'amour fraternel. Et Philadelphie était située à 60 km au sud-est de Sardes, que nous avons vu la semaine passée. Il y avait de grandes productions de raisins, ce qui a créé même un temple dédié à Dionysos. Et la ville était aussi entourée de volcans, ce qui rendait en fait la terre vraiment fertile pour la culture des vignes et du raisin. Mais cet endroit était aussi extrêmement dangereux, parce qu'il y avait d'innombrables tremblements de terre, dont un qui a même failli rayer la ville de la carte. Et ensuite, la ville a été reconstruite, et l'église de Philadelphie était implantée. Elle avait un ministère tellement important et puissant que Jésus, dans sa lettre, si vous remarquez, ne lui fait aucune reproche. Maintenant, vous me dites, Raphaël, est-ce qu'alors tu parles là d'une église parfaite ? Est-ce qu'une église parfaite existe-t-elle vraiment ? Non. Ce n'est pas une église parfaite, mais plutôt en bonne santé. Et c'est ça que nous recherchons dans nos églises, mes amis, actuellement. C'est d'avoir une église en bonne santé, pas une église parfaite. Parce que ce serait peine perdue d'essayer d'être une église parfaite. Et revenons maintenant sur les deux premiers versets, 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Alors directement ici, on peut retrouver plein de paroles communes aux autres lettres, écrites à l'ange de l'église de. Ou alors, je connais tes œuvres. Ou alors, par exemple, j'arrive bientôt. Mais rappelez-vous, la semaine passée à Sardes, quand Jésus leur dit, je connais tes œuvres. En d'autres mots, il connaît le cœur de l'Église. Donc, que l'Église soit vivante ou morte, Jésus connaît son cœur. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas faire semblant ni être dupe face à Christ. Et aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il est la clé de David. On a vu aussi les dernières semaines pas mal d'autres expressions comme ça. D'abord, on a parlé des sept pasteurs, qui sont en fait les sept étoiles que Jésus dit. J'ai les sept étoiles. Ensuite, on a vu les sept esprits, qui étaient en fait un symbole pour le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la clé de David. En fait, Jésus se réfère au passage en Ésaïe 22, verset 22. À l'époque du roi Ézéchias, il y avait Éliakim qui était en fait le chef du palais et il avait le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la porte, de donner accès à la chambre du roi. Et c'était vraiment une époque sombre. Mais malgré cela, malgré ce pouvoir quelque part qu'il avait, cet homme est vraiment resté fidèle dans cette période obscure. C'est pour ça que Jésus s'identifie à ce personnage Éliakim, celui qui a la clé. Mais alors pourquoi de David ? Mais comme vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des prophéties de l'Ancien Testament qui disent qu'un sauveur viendra de la lignée de David, de la tribu de Juda. Mais bien sûr, le sauveur, on se réfère à Christ. Donc, Christ est de la lignée de David, de la tribu de Juda. Il a la clé de David. Il parle d'ouvrir et de fermer la porte. Et en fait, moi, je pense qu'ici, il se réfère au salut. En Apocalypse 1, verset 18, il dit qu'il possède la clé de la mort et du séjour des morts. Ce qui veut dire que lui seul peut décider d'octroyer le salut, d'ouvrir la porte du salut, ou d'envoyer les gens vers le séjour des morts en enfer. Et Jésus dit aussi en Jean 10, c'est moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ce qui démontre bien que le salut ne vient que par Christ et se trouve en lui seul. Maintenant, Jésus entre dans le vif du sujet. Il reconnaît que l'Église de Philadelphie n'a pas beaucoup de puissance, mais qu'elle a gardé sa parole et qu'elle ne l'a pas reniée jusqu'au bout. Déjà, on peut comprendre une chose ici. C'est une Église qui était persécutée. Et pourquoi une Église était persécutée, mes amis? Parce qu'elle évangélise et parce qu'elle prêche la parole de Dieu à sa ville et sa communauté. Rappelez-vous l'Église de Sardes. Malgré qu'elle vivait dans un monde païen où il y a beaucoup de juifs, les juifs, rappelez-vous, qui ont souvent persécuté l'Église, elle n'était pas persécutée parce qu'elle n'avait pas un cœur d'évangélisation et de prédication de la parole. Et imaginez dans le monde actuel, combien d'églises ne prêchent pas certains passages bibliques ou n'évangélisent pas de peur d'être persécutées par le monde extérieur. Mais ici, l'Église de Philadelphie nous laisse vraiment un encouragement par sa fidélité à la parole de Christ et en ne l'ayant jamais renié malgré la persécution. Elle nous laisse ce message qu'une église qui s'abandonne totalement, qui se remet totalement à Christ, est une église qui va porter des fruits. En revanche, une église qui compte sur sa richesse, ou sa propre gloire, ou sa puissance, n'ira nulle part, car la première vague de persécution, elle va probablement renier le Christ. Et honnêtement, n'avez-vous jamais personnellement pensé que dans nos périodes et nos saisons de persécution ou d'épreuves, il est plus facile de renier Christ que de le suivre et lui obéir? Lorsque tout va bien, on est là, on prierait bien jour et nuit, on loue, oui, Dieu, amen, amen, Seigneur, oui, tu es le roi, tu peux toutes choses. Mais lorsque nous sommes persécutés, mes amis, oh mais non, pourquoi je vais le louer s'il ne résout pas mes problèmes? Mais enfin, je ne comprends pas. Je suis mon plan de lecture le matin. Je prie. Je participe aux réunions de prière. Je vais à l'église le dimanche. Je donne l'offrande, la dîme. Et Dieu me laisse dans ma persécution. Mais ce n'est pas possible. Dieu ne doit pas être amour. Est-ce qu'il existe vraiment? Et pourtant, c'est difficile à croire, mais c'est dans une période de persécution et d'épreuve que Dieu nous donne l'opportunité de mûrir spirituellement et de lui dire « Je te suivrai et je te louerai de tout mon cœur, de toute mon âme, dans les bons et aussi dans les mauvais moments. » Et ce qui m'interpelle souvent quand on parle de persécution, c'est souvent les chrétiens qui se trouvent dans les pays les plus persécutés, comme par exemple la Corée ou le Moyen-Orient, où là où être chrétien peut même nous amener à être condamnés à mort. Eh bien, ces gens-là, généralement, restent fidèles à Christ et ne le renient jamais jusqu'au bout. Maintenant, je ne veux pas que vous me compreniez mal. Je ne dis pas qu'ici, il n'y a pas de persécution, mais je pense plutôt que nous sommes face à une persécution d'un autre ordre. Si on prêche l'évangile, si on évangélise, on peut très bien être sujet à des moqueries, on peut perdre des amis, on peut très bien risquer même d'aller jusqu'à perdre notre travail parce qu'on a évangélisé. Et cela ne devrait pas nous empêcher ni nous effrayer de suivre ces exemples, ces chrétiens persécutés, pour prêcher l'évangile à notre ville, à notre entourage, sans relâche, peu importe les conséquences. Car le gain en Christ que nous avons en faisant cela est bien plus immense et plus important que ce que nous apporterait notre silence. Et si je vous le dis cela de cette manière, c'est parce que moi, je suis le premier qui lutte avec l'évangélisation. Mes amis, parler à Jésus est une des choses pour lesquelles je me mets à genoux chaque matin. Je prie chaque matin que Dieu me donne le courage et l'audace de prêcher à mon prochain. Donc cette parole ce matin, ce message, est pour moi en premier. Et revenons à présent sur le verset 9. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Philadelphie a été persécutée par ceux qui se disent juifs, mais qui ne l'étaient pas. Jésus dit en fait qu'il ne travaille pas pour lui, mais qu'il travaille pour l'ennemi. C'est la synagogue de Satan. Et une chose que j'aimerais bien soulever ici, c'est qu'en fait, on parle toujours des juifs persécuteurs, etc., etc., mais Jésus n'était pas antisémite. Jésus est contre le péché, et ça c'est différent, il est anti-péché. Parce que Jésus était juif, Paul était juif, les apôtres étaient juifs. Et si on regarde de plus près à Galates 3, 7, on peut apprendre que devenir chrétien, c'est en fait devenir un vrai juif, être un fils d'Abraham. Et c'est vrai qu'ici, dans ce passage, on parle des juifs, mais dans notre société actuelle, on a tendance à avoir des gens qui sont anti-gays, anti-musulmans, anti-ceci, anti-cela. Mais Jésus est mort pour tous ces gens, comme il est mort pour nous. Qu'ils soient juifs, non-juifs, gays, américains, africains, européens, asiatiques, peu importe, Jésus est mort pour tous ces gens. Et nous devons vivre auprès de toutes ces ethnies, de tous ces gens, peu importe leur opinion politique, peu importe ce qu'ils croient. Nous devons leur apporter l'Évangile. Nous devons apporter notre lumière à leurs ténèbres. Et vivre accepté, c'est avant tout être en acceptation avec le plan de Dieu, être passionné par son plan, qui est d'amener à son royaume toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les opinions politiques, sans exception. Et rappelez-vous ce que Paul dit aux Juifs à Rome, à la fin du chapitre 2, en Romains. Dieu ne fait pas de favoritisme. En d'autres mots, il vous aime et vous considère tous égaux, peu importe votre origine, peu importe vos croyances, peu importe d'où vous venez. Christ vous aime et il est mort pour vous. Et vraiment, s'il y a des gens ce matin qui nous écoutent et qui sont peut-être musulmans, qui sont peut-être homosexuels, je veux que vous sachiez que Christ vous aime. Et je vous aime d'ailleurs, et vous serez toujours les bienvenus à LifePoint. Ne doutez jamais de cela. Passons maintenant au verset 10 à 13. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temps de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Lorsque Jésus dit ici qu'il gardera Philadelphia, on pourrait penser qu'il parle de ce qu'on appelle en termes bibliques l'enlèvement. Mais je pense que ce n'est pas le point ici. Il ne se réfère pas à une protection physique ou spirituelle. Parce que d'ailleurs, Christ nous l'a dit, « Si vous voulez me suivre, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, parce que moi j'ai vaincu. » Le monde. Je pense ici qu'il ne s'agit pas de protection face à la persécution ou au martyr, mais plutôt une protection contre la colère de Dieu lors du jugement. Et ça, c'est encore quelque chose de plus incroyable. Et au verset 12, il parle de faire du vainqueur un pilier et qu'il écrira le nom de Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. En d'autres termes, ce qu'il veut dire par là, c'est « j'appartiens au Père. Les cieux sont ma demeure et Jésus-Christ est mon Seigneur. » Waouh, mais n'est-ce pas magnifique, mes amis? Quelle promesse Jésus fait à l'Église de Philadelphie et même à nous, ses enfants. Waouh, incroyable. Vous voyez, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la persécution, les églises persécutés ainsi que leurs membres qui font face à la persécution ou à de l'opposition ne devraient jamais arrêter de vivre envoyés et de prêcher l'évangile à la communauté, car voici leur récompense. J'appartiens au Père. Les cieux sont ma demeure et Jésus-Christ est mon Seigneur. Ne vous arrêtez pas et continuez de toutes vos forces à bouleverser le monde par l'évangile de Jésus-Christ. Car la puissance d'une église ne demeure pas dans ses responsables. Parfois, on met toute la pression sur le corps pastoral, sur les responsables de l'Église, pour que l'Évangile soit prêché, pour vivre envoyé. Mais c'est aussi nous, parce que nous sommes l'Église. Et la puissance d'une Église ne dépend pas non plus de sa trésorerie, de combien d'argent elle a, ou d'auprès de combien d'autres Églises elle est connue. Parce que rappelez-vous, Sardes, elle était probablement connue comme vivante auprès d'autres Églises, mais elle était morte. C'est seulement l'Évangile de Jésus-Christ qui donne la puissance. C'est ce que Paul veut nous dire en Romains 1,16. L'Évangile, c'est le pouvoir du salut pour quiconque croit en Jésus-Christ. Et alors que nous concluons ce message, ma question est, quelle Église voulons-nous être ce matin? Voulons-nous être une Église qui va baigner dans son confort et sa sécurité afin d'éviter la persécution, qui évitera de prêcher certains passages afin d'avoir plus de membres et avoir plus de gens qui sont satisfaits par ce qu'on prêche? Une Église qui reposera sur ses propres forces pour subsister? Ou alors, sommes-nous comme Philadelphie qui a vécu envoyée de toutes ses forces pour faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ à d'autres, afin que d'autres soient sauvés de la colère du jugement? Ma prière ce matin pour LifePoint Bruxelles, d'ailleurs pour toutes les autres églises de Bruxelles et de Belgique, c'est que nous ne nous retrouvions pas dans le registre des églises mortes, mais bien que nous soyons connus parce que nous n'avons jamais cessé de bouleverser le monde par la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Parler de sa foi ne révèle pas une promenade de santé. C'est une lutte continuelle, car l'ennemi ne va pas se laisser faire. Il ne va pas rester dans son transat en disant « Oh, mais qu'il prêche l'Évangile ». Non, il va avoir de l'opposition. Peut-être pas ici en Europe physique, mais il y en aura. Mais cependant, encore une fois, quand on voit ce verset 12 et la récompense qui nous attend, cela ne passe-t-il pas au-dessus de toutes ces moqueries, de tous ces rejets? Et rappelez-vous que celui que vous servez est celui qui a la clé de David, celui qui a l'autorité suprême, qui est le roi des rois, celui qui est l'alpha et l'oméga, qui a créé le monde depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est lui qui ouvre les portes. Alors prions ce matin que dans la semaine à venir, Jésus nous ouvre une porte et que son esprit nous donne l'audace d'ouvrir la poche pour proclamer des paroles de paix à ceux qui sont perdus dans les ténèbres et dans la crise actuelle. À la croix, Jésus nous a donné une perle qui n'a pas de prix et qui est tellement grande et formidable pour que nous ne puissions pas la garder seulement pour nous. Et je me dis ceci, si la personne qui nous a prêché l'Évangile aurait dit « Moi, je vais garder cela pour nous », peut-être que nous serions en train de marcher dans les ténèbres. Alors ne gardons pas cet Évangile pour nous et ne nous fatiguons pas de le prêcher aux nations, à toute nation, à toute tribu, à toute langue. Prions ensemble, mes amis. Seigneur, je te loue, Seigneur, pour cette parole, pour cette promesse que tu nous as donnée, que Dieu est mon Père, que l'Éternel est ma force. Tu es mon Seigneur, ô Père Jésus-Christ. Ô Seigneur, je te prie que tu nous donnes l'audace de prêcher ta parole, Seigneur. Peu importe les moqueries, peu importe le rejet, peu importe que nous ne connaissions pas toute la Bible, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que ton esprit nous guide à travers cela. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que cette perle précieuse, nous ne pouvons pas la garder pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'ai encore deux petites annonces avant de vous laisser. Premièrement, nous avons loué le Seigneur avec de la louange. Mais aussi, donner notre dîme et nos offrandes est aussi une manière de le louer. Alors je sais qu'on est toujours dans un contexte où ouais, l'Église veut mon argent, mais ce n'est pas ceci. Nous ne vous demandons pas votre argent, mais nous vous demandons de prier et de considérer que l'offrande et la dîme sont une manière de louer le Seigneur. Et durant ce temps-ci, nous avons l'opportunité de donner en ligne. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, vous pouvez écrire à info@life.church.be et le pasteur de l'administration vous répondra avec plaisir sur comment vous pouvez donner électroniquement. Rappelez-vous que ce n'est pas parce que nous ne nous rencontrons pas physiquement que l'Église s'arrête là. L'Église, c'est nous. Et Dieu veut nous utiliser pour construire et édifier son royaume. Et la deuxième chose, c'était la dernière semaine de travail dans le milieu séculier de notre pasteur de louange, Ray Levy. Donc cela veut dire que maintenant il va travailler à temps plein pour l'Église. C'est vraiment un sujet de reconnaissance et de louange. Ray est un très bon ami, c'est quelqu'un qui est vraiment dévoué à la parole du Seigneur et il a vraiment à cœur les francophones. Il a vraiment à cœur que le public francophone soit touché et que LifePoint soit un canal de bénédiction pour tout ce peuple francophone. Et c'est aussi un grand amateur de café, donc n'hésitez pas à partager un café un jour ou l'autre avec lui quand ce sera à nouveau possible. Envoyez-lui un email pour l'encourager, pour prier pour lui. Rajoutez peut-être dans votre liste de prières Ray, sa femme Catherine et leur fils Jonathan. Priez pour cette famille, Seigneur, afin que le Seigneur les utilise pour sa gloire et pour notre bien. Prenez soin de vous cette semaine. Vraiment, prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.